Bonjour, je m'appelle Benoît et vous êtes sur Vous faites vraiment un beau métier, le podcast des artistes et autres saltimbanques. À chaque épisode, un artiste feuillette avec nous les pages de son parcours et nous explique ce qui a fait l'artiste qu'il est aujourd'hui. Lorsque j'ai monté ce podcast, j'ai souhaité qu'il soit celui de tous les artistes. C'est pourquoi, pour ce cinquième épisode, je rencontre un danseur, mais pas n'importe lequel. Qu'il soit Don Quichotte, Carabosse dans La Belle au Bois Dormant ou encore Lord Capulet dans Roméo et Juliette, il ne se lasse pas d'arpenter la scène du Grand Théâtre de Bordeaux. C'est là où se produit le ballet de l'Opéra National de Bordeaux dont il est membre de corps de ballet. Il se produit également sur les scènes étrangères, il est directeur artistique et fondateur du collectif du ballet de poche. Bref, vous l'aurez compris, il ne manque pas d'activité. Bonjour Marc-Emmanuel Zanoli.
Bonjour.
Une de tes actualités, c'est Cendrillon de Prokofiev au Grand Théâtre de Bordeaux du 10 au 31 décembre. Tu nous en parleras plus tard ?
Avec plaisir.
La question que je pose à tous mes invités et par laquelle je débute toutes mes rencontres, c'est lorsque tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas et que tu lui dis que t'es artiste, quelle est sa réaction ?
Ah, je vois tout de suite de l'émerveillement dans ses yeux et de l'intérêt, de la curiosité. Et les questions d'un coup fusent et bon, ça me fait toujours plaisir de parler de mon métier, de le faire découvrir, aussi de tordre le cou aux clichés et puis en même temps de bien spécifier que je vis de ma passion et c'est un véritable métier, ce n'est pas un hobby et parce que souvent ça nous arrive et j'avais pu également en prendre connaissance dans les précédents podcasts que on nous demande oui bien sûr c'est super mais ton vrai métier c'est quoi? C'est toujours un petit peu compliqué. Voilà.
Alors on va se pencher sur ton parcours et pour comprendre comment tu es arrivé à l'Opéra National de Bordeaux, on va repartir au début, dans ton enfance, et on va se pencher sur les prémices. C'est la première partie de l'épisode, top jingle. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tes parents étaient sensibles à l'art, à la danse ? Est-ce qu'ils t'amenaient au spectacle ?
Ah ben oui, surtout ma maman qui, elle, avait été danseuse classique. Elle a eu forcément cette influence sur mon choix artistique, même si elle ne m'a pas poussée au début, au contraire. Bon, elle m'a toujours soutenue, hein, mais elle voulait me protéger de ce milieu très très compliqué. Mais à la maison, en tout cas, il y avait cet univers artistique, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de ballets qui passaient, voilà, en cassette vidéo à l'époque, les DVD n'existaient pas. Et puis, on allait, quand on le pouvait, voir les spectacles. Alors, tantôt, la salle Jean Harp à Clamart, où il y avait la compagnie de l'opéra de Riga qui passait, alors avec Gisèle, Lac des Cygnes. Alors moi j'étais émerveillé parce que forcément c'était exceptionnel de voir ces spectacles là. Peut-être que si je les voyais maintenant, je me dirais bon c'est un petit peu kitsch ou bon voilà, les moyens de l'époque étaient un peu limités. Mais j'ai aussi eu la chance de voir des moments exceptionnels à l'Opéra de Paris, et entre autres un souvenir que je garde intact, pourtant j'étais vraiment pitchoun, c'est le Roméo-Juliette de Rudolf Nureyev avec Patrick Dupont et Monique Loudière. Et pour moi, ça c'est juste quelque chose de précieux, une Madeleine de Proust que je garde bien au fond de ma mémoire et de mon cœur.
D'accord. Est-ce que tu avais des idoles à cette époque-là, que ça soit en danse ou pas, ou en tout cas des références ?
Alors, mon idole, très jeune, très très jeune, et encore maintenant, c'est pas quelqu'un qui est danseur, c'est quelqu'un qui a énormément contribué à l'art chorégraphique, mais c'est un compositeur, et c'est Piotr Ilitch Tchaïkovski. Et j'ai eu beaucoup d'émotions en allant à Saint-Pétersbourg et en me recueillant sur sa tombe. Ça a été très fort pour moi.
D'accord.
Voilà.
À l'école, hein, quel enfant étais-tu ? Est-ce que tu avais des copains ? Est-ce que tu dansais déjà ? Est-ce que tu étais plutôt chef de bande ou plutôt suiveur ?
Alors, j'étais pas chef de bande, j'étais pas suiveur. J'étais vraiment un espèce d'électron libre parce que très tôt, on a compris que j'étais, très attiré par la danse. J'avais beaucoup de mal à me retenir de ne pas danser. Et forcément, ça a attiré les critiques. J'ai pas un bon souvenir de ma scolarité, qu'elle soit en primaire ou au collège. Du moins, tant que j'ai pas intégré le conservatoire à Paris. Toute la partie avant, pour moi, reste très... Alors, plus douloureuse, parce que ça y est, j'ai fait un travail dessus, mais c'est pas un souvenir doux.
D'accord. Alors, comment la danse est entrée dans ta vie et quel a été le déclic entre le fait d'avoir une maman danseuse et le fait de dire « moi aussi, je vais faire de la danse ».
Alors, au début, comme tout petit garçon, je voulais être pompier. Voilà, donc ça s'est raté. Ensuite, j'ai eu beaucoup de plaisir à être à patauger dans les piscines. Donc en fait, la natation me plaisait énormément et j'avais un bon niveau. Sauf que des problèmes de santé m'ont éloigné des bassins. Et m'ont rapproché des bars, alors pas des bars pour boire, mais des bars pour travailler. Et c'est là où en fait j'ai commencé à vraiment comprendre que j'avais trouvé ma voie. Et comme je disais précédemment, c'est vrai que ma maman m'a accompagné, m'a soutenu, mais m'a toujours mis en garde, en me disant que c'était un métier très difficile.
Donc tu vas intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris.
Oui. En 1996, j'ai cette chance de réussir à passer l'examen et de rentrer pour alors ça allait être pour juste une saison, mais en même temps ça a été une saison douloureuse, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que elle m'a apporté la rigueur, la discipline, elle m'a donné beaucoup sur un plan technique. Humainement, ça a été plus compliqué. J'ai trouvé ça très dur d'être confronté à la compétition aussi jeune. Je ne suis resté qu'un an parce que j'ai été renvoyé. Officiellement, pas le niveau. Officiellement, non, je n'avais pas la taille. Officieusement, je me doute que je n'avais pas le niveau pour passer en classe supérieure. Et je suis rentré de suite après au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, un titre bien ronflant, mais bon, faut le dire. Et je remercie vraiment toute l'équipe pédagogique de l'époque qui a été un soutien. Et puis j'ai vraiment aimé mes années au Conservatoire. Alors j'y suis resté 5 ans, j'ai fait toutes mes années là-bas, tout mon cursus. Donc je suis plutôt heureux. Et puis ça a été un bonheur. J'ai juste eu ma deuxième année de conservatoire qui a été difficile parce que j'ai eu une crise de croissance. Je me suis pris 20 cm d'un coup. Donc ça a été vraiment une galère pour travailler, se mettre à la barre, essayer de trouver ses équilibres. Enfin, j'avais l'impression de réapprendre la danse. À l'époque, mon professeur n'était pas très très coopérant avec moi, donc c'est pas une année que je garde avec un souvenir heureux, mais les autres années c'est vraiment du bonheur.
Très bien, merci. On va clôturer là cette première partie, vu qu'on est arrivé au bout de tes études. On va voir qu'est-ce qu'on fait après les études dans notre deuxième partie. Mais avant, je sais que tu as écouté les autres podcasts. Il y a un passage obligé, c'est celui de la machine infernale. C'est-à-dire que c'est la machine qui tire une question au hasard et c'est toi qui vas actionner la roue.
Suspense. Oh, c'est génial. Alors, meilleur moment de scène.
Est-ce que tu as un meilleur moment de scène? Est-ce que tu as un souvenir où tu étais sur scène et où tu... qui reste gravé dans ta mémoire
Alors, c'est terrible parce que la première image qui me vient en mémoire, c'est même pas un moment de grâce où je dansais ou la rencontre avec un rôle. C'est un énorme fou rire qu'on s'est pris sur scène. C'était dans le ballet Gisèle, c'était à Bordeaux. Et en fait, à l'acte 1, fin de l'acte 1, avant la scène de la folie, qui est une scène incontournable, il y a la rencontre de Gisèle avec le prince et avec toute la cour qui arrive sur scène, parce que, voilà, il y a eu plein de rebondissements avant, et donc là, ça va être la confrontation entre Gisèle, Bathilde, la fiancée du prince, et le prince qui se retrouve avec les deux nanas qui, voilà, qui l'a emballé. Et là, ce qui se passe, c'est que notre Bathilde sort de la maison avec une longue cape et elle reste accrochée à la porte. Et elle n'arrive plus à avancer. Et d'un coup, on sent qu'elle est en galère et elle dit « Je suis coincée !» discrètement. Et ce qui est terrible, c'est que personne n'a eu sur le moment l'élan d'aller la décrocher et elle est restée à peu près 20 secondes accrochée. Alors 20 secondes comme ça, ça passe oui très rapidement, mais en fait pas du tout. Sur scène, c'est très long. Et vu que c'est toujours dans les moments les plus dramatiques où on se prend des fous rires et surtout des fous rires qu'on n'arrive plus à contrôler. Donc pour moi, ça reste un moment juste exceptionnel parce qu'il fallait quand même continuer. Et le public n'est pas censé le voir. Mais bon, voilà. Donc c'est même pas... peut-être que je déçois beaucoup en disant en me disant pas « Oui, c'est quand j'ai interprété tel rôle. » Non, non, c'est le fou rire sur scène.
On passe à la deuxième partie qui s'appelle « Les premiers pas top jingle ». Donc, tu sors du conservatoire avec mention bien. Mm-hmm. Tu fais une autre année au Junior Ballet?
Alors, en fait, le conservatoire était à l'époque organisé comme ceci. On avait les quatre années de cursus, voilà, première, deuxième, troisième, quatrième année. À l'issue de la quatrième année, il y avait le prix à passer. Et la cinquième année, c'était comme une année de préparation à la vie de compagnie, qu'on appelait Junior Ballet. Donc, on avait la possibilité de rencontrer des chorégraphes, des pièces, et puis surtout de faire de la scène, de commencer à penser comme un professionnel et plus comme un élève. Et puis, on a commencé à faire les petites tournées. Donc, ça, c'est excitant. Parce que on commence à sentir que on tient notre rêve dans la main, celui de vivre de alors pas de sa passion, mais en tout cas les quatre années qu'on a mis en place avant se concrétisent et le résultat est présent dans cette année-là avant de pouvoir intégrer une compagnie. Ça, c'est plus compliqué.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait après ?
On passe des auditions. Et moi, j'en ai passé avant d'être engagé en tant que surnuméraire à l'Opéra de Paris, j'en ai passé 10. Alors d'autres amis, eux, dès leur première audition, ils étaient engagés dans une compagnie. Moi, le souci, c'est que tantôt j'étais trop classique. Physique trop classique, très longiligne, très 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 lyrique, soit je n'avais pas assez d'expérience. Voilà. Ça a été compliqué parce que c'est là où les questions et les doutes arrivent, à se dire bon ben toutes mes années d'école de danse et de conservatoire n'ont servi à rien. Il va falloir que je reprenne des études. C'est un échec. C'est un échec pour soi, c'est un échec on considère être un échec pour ses parents, pour sa famille, même si eux bien sûr ne m'ont pas dit mon Dieu mon fils tu c'est une calamité. Mmh. Non, au contraire, ils ont toujours été à mes côtés, à me soutenir et à me dire « sois positif ». Bon, je l'ai été et j'ai réussi à intégrer pour quelques mois l'Opéra de Paris, donc ça m'a plu et surtout j'étais honoré de pouvoir rentrer dans ce grand palais et de voilà, d'admirer, de regarder, de regarder les gens travailler et de côtoyer des personnalités qui m'inspiraient et puis qui m'inspirent toujours, mais de près. Enfin, j'ai des souvenirs à la cafette de l'opéra où je prenais mon petit déj le matin et j'étais entouré de Laurent Hiller, Nicolas Leriche, Marie-Agnès Gillot, Wilfried Romoli, et puis voilà. Et moi j'étais au milieu d'eux, parce que Laurent Hiller est mon petit père, c'est comme un parrain de la danse, ma petite mère étant Elisabeth Platel. Et c'était des moments magiques. Et après, ben, il y avait la scène et c'était... Alors moi, je n'ai pas dansé parce que quand on est supplémentaire, c'est très compliqué avant de pouvoir mettre un pied en scène. Mais en tout cas, j'étais là à regarder les autres dans le Ivan le Terrible de Youri Grigorovitch. C'était merveilleux. C'était merveilleux de tous les voir. Oui, l'Opéra de Paris est une belle compagnie.
Et après ?
L'Opéra de Bordeaux.
Et comment ça s'est passé, l'Opéra de Bordeaux ?
Alors déjà, l'audition, je voulais pas la passer. C'était la deuxième fois que je la passais. Et puis, j'étais dans un moment où je doutais. Ou de toute façon, j'étais à me dire, faut que je fasse des économies. Donc là, ça voulait dire billet de train, chambre d'hôtel. Enfin bon, c'était... Il y avait plus de sorties d'argent que de rentrées. Donc c'était très compliqué pour moi. Et c'est ma maman qui, encore une fois, m'a dit « Non, non, tu vas la passer, comme ça tu n'auras pas de regrets. » Et j'y suis allé, En fait, les deux auditions que j'ai réussies, c'est celles où je me suis présenté en me disant « De toute manière, je ne serai pas pris. » Donc, fais-toi plaisir, danse et n'aie aucune pression. Et j'ai réussi. Donc, j'étais plutôt content. Et ça a été le début d'une... d'une longue carrière à l'Opéra de Bordeaux. C'était en 2004.
Très bien. Et donc, tu nous as dit que tu as eu des périodes de doute, de remise en question. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit « ça y est, j'y suis arrivé ». J'ai bien fait de choisir cette voie, que ça soit dans tes études, au moment où tu es rentré à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra de Bordeaux, ou même très récemment.
Alors le « ça y est, j'y suis arrivé », je pense que je ne me le dirai jamais, parce que on a ce fonctionnement de remise en question, voilà. C'est permanent chez nous, on est tout le temps en train de retravailler, de se dire que rien n'est acquis, et de toute manière notre corps nous le fait bien sentir chaque jour, puisque chaque jour on se remet à la barre, et que chaque jour notre corps, il faut qu'on l'apprivoise avec ses douleurs, avec ses caprices, donc on n'y arrive jamais. En revanche, je me suis souvent dit... Tu as bien fait de ne pas lâcher, puisqu'on me faisait comprendre que jamais je ne ferais de carrière où je ne serais un danseur. Ça, c'était un professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris qui m'avait dit ça. Quand je regarde le chemin parcouru depuis ces 17 dernières années, je me dis c'est bien, t'as pas lâché et tant mieux. Tu serais passé à côté de rencontres, de rôles, de chorégraphes, et ça aurait été bien dommage.
Et puis, tout dernièrement, en 2018, tu as été lauréat du prix Claire Milon de la danse. Comment tu l'as pris, ce prix ?
Je l'ai pris plutôt bien, parce que c'était encore un moment où j'étais quand même dans une bonne période de doute, où j'étais confronté, du moins j'étais témoin de, il me semble, d'injustice. Et c'était très dur pour moi à cette époque de prendre du recul. Et en fin de compte, ce prix qui m'a été décerné par trois personnalités de la danse, donc Brigitte Lefebvre, qui a été directrice de la danse du Ballet de l'Opéra de Paris, Elisabeth Platel, qui est actuellement directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris et incroyable danseuse étoile, et Heinz Perli, qui est un chorégraphe tellement musical lui aussi, et puis un ancien directeur du Ballet de Zurich, je crois. D'un coup, d'avoir leur regard posé sur mon travail, ça m'a tellement touché, tellement ému. Franchement, je les remercie encore et je les remercierai toujours d'avoir pris le temps et d'avoir été touché par mes différentes interprétations qu'ils ont pu voir en spectacle pour choisir tel ou tel danseur pour ce prix. Donc, ce prix Claire Milon, déjà, j'ai pas eu souvent de prix, mais celui-ci reste a énormément de valeur à mes yeux.
Merci. On va passer à la troisième partie, mais avant, c'est la tradition, la machine infernale.
Votre premier cachet.
Oui.
Mon premier cachet, ça a été quand j'ai fait mon contrat à l'Opéra de Paris et le premier salaire que j'ai perçu, donc j'ai mis de l'argent quand même de côté, hein, mais le premier cadeau, je me suis offert un manteau Kenzo.
Wow.
Oui, ben j'ai flashé dessus et j'étais non mais c'est pas bien, faut pas. Et puis faut marquer le coup, allez. Je me suis acheté le manteau que j'ai toujours, mais voilà, ça a été petit caprice.
C'est bien.
Oui.
Il faut savoir.
Oh ben je le regrette pas.
La troisième partie du podcast, c'est être artiste au quotidien. Top jingle. Quelle est la journée type d'un danseur? Est-ce qu'il y a des rituels?
Alors, la journée type d'un danseur. Ma journée type.
Oui.
On va dire que au ballet, j'ai la classe à 11h, qui dure 1h30. Donc, c'est là où on travaille, on s'échauffe et on travaille la technique. Donc, de 11h à 12h30. 12h30, 13h, c'est une pause. Donc, soit le temps de manger, soit le temps de se poser un peu. Et de 13h à 18h, ce sont les répétitions.
D'accord.
Mais, à côté de ça... j'arrive toujours à peu près 30 minutes avant la classe pour pouvoir me stretcher, me chauffer. Sinon, 2 à 3 fois par semaine, je vais chez mes coachs, Patrice et Christophe Zapata, qui s'occupent de moi depuis bien longtemps et surtout depuis que je me suis fait opérer d'une hernie discale, il y a 2 ans, presque 2 ans maintenant. Enfin non, il y a presque 3 ans maintenant. Et donc je dois être hyper prudent là-dessus, c'est du renforcement et c'est totalement complémentaire par rapport à mon travail. Ça me fait lever plus tôt. Voilà, après il y a ces séances là, il y a les séances de kiné aussi. Alors c'est pas juste papouillage et c'est ouais. Vraiment masser le muscle qui est attaqué, qui est parfois meurtri, les séances d'ostéo. Ça fait de longues journées et puis après moi j'ai mes responsabilités à côté, j'ai mes projets à côté qui me prennent beaucoup de temps. Donc même mes jours de repos que je m'octroie quand même, mais je suis toujours en train de préparer soit le projet suivant, soit me stretcher un peu, faire une petite séance d'abdos, de muscu. Voilà.
Donc, ce qui est très important et à retenir, et pour les gens comme moi qui ne le savent pas, c'est que quand on est dans un corps de ballet, enfin quand on est au ballet national, c'est pas simplement le soir on y va pour jouer, c'est toute la journée on a des classes. Et puis, on a des répétitions.
Oui, et puis même les jours de spectacle. Alors, c'est vrai que j'en parlais avec des amis chanteurs lyriques, qui, eux, quand ils ont spectacle le soir, la journée ne font rien, se reposent pour le spectacle du soir. Nous, c'est notre heure et demie de classe, la répétition qui suit pour pouvoir retravailler des choses qui n'ont pas fonctionné la veille, ou alors parfois il y a des seconds castes, des secondes distributions à faire travailler, et puis les 3 heures de battement entre la répétition et le spectacle, on ne passe pas 3 heures à ne rien faire, c'est-à-dire que moi mes 3 heures c'est aller manger, faire une sieste, besoin de dormir un peu. Ensuite à 18h j'ai la convocation au maquillage, coiffure, et puis à 19h je suis déjà sur scène à me chauffer.
Est-ce que tu arrives à estimer combien de temps dans une journée normale tu fais travailler ton corps?
7-8 heures. Oui, après maintenant je suis beaucoup plus regardant sur le temps de récupération, parce qu'avant je travaillais beaucoup plus même, je pouvais avoir des journées de danse vraiment qui commençait à 10h et je finissais à 21h30, 22h en journée de répétition simple, hein, sans les spectacles. Et je me suis aperçu que mon corps, à un moment donné, fatiguait un peu.
Et c'est normal.
C'est normal. Et puis surtout, si j'ai envie de durer, de ne pas finir sur une blessure, ce qui serait vraiment triste, j'ai plutôt intérêt à faire attention et à être... regardant sur ces temps de récupération.
Justement, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as le droit de faire des écarts avec l'alcool, avec la nourriture? Est-ce que tu as une hygiène de vie drastique?
Chacun prend ses responsabilités. Chacun est assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour son corps et ce qui ne l'est pas. Moi, je goûte à tout, je mange, je bois, mais je suis quand même à respecter mon corps, et puis surtout à être conscient que si je veux être performant le lendemain pour un spectacle, je vais pas me taper une cuite et puis me coucher à 4h du matin. Mais en attendant, je vais pas être non plus à me coucher à 20h30 et à boire de l'eau et manger que de la salade, c'est... non. Moi, j'aime beaucoup le vin, manger aussi, et voilà, hein, les plaisirs. On fait un métier déjà compliqué, déjà dur, alors si en plus on se fait pas plaisir à côté, c'est frustrant.
Merci, on passe déjà à la dernière partie de l'épisode. Mais avant, c'est la dernière fois, et je sais que tu le regrettes déjà,
oui.
De la machine infernale.
Last one. Alors, une déception.
Ça peut être un rendez-vous manqué, quelque chose qui s'est pas fait.
Mais c'est... Oui, j'ai eu des déceptions, mais en fait, souvent, je me suis dit que c'était un mal pour un bien. Donc oui, il y a eu des moments où j'ai voulu toucher à des rôles. Je comprenais pas pourquoi on me les donnait pas. Et puis souvent je me remettais moi en question, hein. C'est-à-dire que j'en voulais plus à moi qu'à la direction ou à la personne qui faisait les distributions. Mais peu de temps après, je me disais oui, mais de toute façon, qu'est-ce que t'aurais fait dans ce rôle? T'aurais rien apporté. Il ne t'aurait rien apporté. Donc une déception. Franchement, je suis plus trop là-dessus.
Ok, merci. La dernière partie, c'est aujourd'hui et demain, top jingle. Alors, ton actualité aujourd'hui, on en a déjà parlé, donc c'est Cendrillon à l'Opéra de Bordeaux, au Grand Théâtre de Bordeaux, du 10 au 31 décembre, durant voilà. 24 représentations.
Environ, oui, oui, oui.
C'est un ballet que tu avais déjà dansé?
Non, pas du tout, c'est la première fois. Alors, je suis vraiment très content, parce qu'en plus, c'est Sergueï Prokofiev, le compositeur, donc c'est magique, j'adore. Mais c'est une nouveauté pour moi, donc je suis ravi de ça. Ça change des Casse-Noisettes, des Belles au Bois Dormant que j'ai été heureux de danser et qu'il faut impérativement maintenir au répertoire d'une compagnie classique, parce que voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Mais c'est bien aussi d'offrir de nouvelles choses, surtout quand on a été, quand on fait partie des plus anciens.
Tu es également fondateur, directeur artistique et chorégraphe d'un collectif qui s'appelle le Ballet de Poche.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, j'oublie pas que le Ballet de Poche a été fondé par, a été fondé avec 4 autres personnes.
Co-fondateurs.
Co-fondateurs, voilà, pour être plus juste. C'est en fait, à la base, un groupe qui souhaitait permettre aux danseurs de l'Opéra de Bordeaux de présenter leur chorégraphie, ce qui n'était pas le cas dans la maison mère.
Okay.
Donc, ça a été vraiment de belles rencontres et puis de belles petites pièces qui se sont créées. Donc, on essaye de les maintenir au répertoire et de les diffuser. Ensuite, là, avec le Ballet de Poche, je suis sur un projet qui s'appelle Hélène et qui est en collaboration avec Christine Acide, une merveilleuse et généreuse femme et chorégraphe, et Vincent Chaillet, premier danseur de l'Opéra de Paris, un artiste lui aussi talentueux, humble, généreux. Donc j'espère que ce projet sera présenté rapidement au public. Voilà, j'espère rapidement vous parler plus en détail de ce projet-là.
Avec plaisir, tu reviens quand tu veux nous en parler. La question que je me posais, tu parlais de Vincent Chaillet, premier danseur à l'Opéra de Paris. Est-ce qu'il y a une communauté de danseurs des opéras nationaux? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous retrouvez?
Alors, on se connaît par génération.
D'accord.
Parce qu'aussi, soit on a fait les mêmes écoles, donc il y a quand même toujours ce lien. Après, bon, il y en a forcément avec qui on s'éloigne, on se perd de vue, mais voilà, grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, on suit la carrière de chacun.
D'accord.
Et on a plaisir à se retrouver avec certains. Voilà. C'est voilà, c'est dit.
Et demain, il va se passer quoi demain?
Alors demain il va se passer que j'espère là aussi que le projet, enfin l'un des projets qui occupe mes journées et mes pensées va être épanouissant pour moi artistiquement parlant, et je pourrais en parler également. Et puis j'espère être encore dans le milieu chorégraphique ou au moins artistique.
Ben justement, dans 10 ans, tu te vois où dans 10 ans?
Déjà, je me vois épanoui, et je me vois surtout, du moins j'espère, être entouré de personnes qui ont la même envie de porter la danse. Alors, danse classique, néoclassique, contemporaine, mais enfin la danse, dans les théâtres, sur les scènes, que toutes les danses, toute forme de danse reste légitime. Mais en tout cas, dans 10 ans, pourquoi pas rêver d'être sur de beaux projets encore chorégraphiques, entouré de merveilleux danseurs, et surtout, j'espère que je les respecterai autant qu'ils me respecteront. Ce sera un travail commun.
On te le souhaite sincèrement, en tout cas. Un grand merci, Emmanuel. Je dois te dire que j'ai été particulièrement heureux de te rencontrer, puisque je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et je ne connaissais rien, mais alors rien, à la danse classique. Et à force de te suivre, de regarder ce que tu faisais, eh bien, j'en ai appris un peu plus sur la danse classique. Alors, je suis pas encore néophyte, mais en tout cas, c'est un art auquel je commence à m'intéresser, et auquel je ne pensais pas m'intéresser un jour. Donc, je te remercie pour ça, et je souhaite que d'autres personnes découvrent la danse classique, et c'est un peu pour ça que j'ai fait cet épisode avec toi.
Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation.
Je remercie également les podcasteurs qui nous suivent épisode après épisode. Vous pouvez donc télécharger tous les épisodes sur toutes les plateformes de téléchargement comme Deezer, PodCloud, Podmust, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, à la seule condition que vous nous mettiez une pluie d'étoiles, de paillettes et de moulures au plafond sur ces mêmes applis. Vous pouvez également nous laisser des messages sur ces applis, communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en tapant Un Beau Métier Podcast, tout attaché. Je tenais également à faire une annonce, je n'ai rien contre les artistes hommes, mais les artistes femmes se font très discrètes. Donc mesdames, vous êtes une femme, vous êtes artiste, vous avez envie de parler de votre métier, contactez-moi, je ne mords pas, je le promets. Le générique de l'épisode s'appelle A Long Cold et a été composé par Riot. Je vous dis donc à très vite.